Ici Téhéran, voix de la République islamique d'Iran.
Au nom de Dieu, le très miséricordieux, le tout miséricordieux. Recueillons-nous pour méditer ensemble sur les versets 1 à 6 de la Sainte Sourate Bayana. Nous vous en présenterons tout d'abord la lecture chantée et ensuite la traduction.
A'oudhou billahi minash shaytanir rajim. بسم الله الرحمن الرحيم لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة رسول من الله يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة وما وذلك دين القيمة صدق الله العلي العظيم.
Ceux les gens du livre qui m'écroient, ainsi que les faiseurs de Dieu, ne cesseront pas jusqu'à ce que leur vienne la preuve. Un messager de la part de Dieu récite des feuilles purifiées où sont des prescriptions droites. Et à ceux qui le livre a été donné, ne se sont divisés qu'après que la preuve leur fut venue. Il ne leur a été commandé, cependant, que d'adorer Dieu en purifiant pour lui la religion en sincère, et d'établir l'office, et d'acquitter l'impôt. Et voilà la religion de droiture. Oui, ceux des gens du livre qui m'écroient, ainsi que le faiseur de Dieu, au feu de la gêne, pour y demeurer éternellement. De toute la création, ce sont eux les pires.
chers auditeurs, bienvenue sur les ondes de la radio francophone iranienne. Vous pouvez nous capter tous les soirs de 18h20 à 19h20, temps universel, sur ondes courtes, dans la bande des 49 mètres, sur la fréquence de 6135 kHz, en Europe et en Afrique du Nord. À Téhéran, nos auditeurs peuvent nous entendre à la même heure sur FM, dans la fréquence de 99,5 MHz. Vous pouvez également nous capter sur les satellites Hotbird et Eutelsat 3.
Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue sur les ondes de la Voix de la République islamique d'Iran en ce mardi soir 18 janvier 2022. Merci infiniment d'être fidèle à la radio francophone iranienne. C'était pour parler de Vienne. L'Iran ne cherche pas à perdre du temps, a souligné le ministre iranien des Affaires étrangères Hossein Amir Abdollahian. La résistance yéménite promet des frappes douloureuses contre les Émirats arabes unis en cas de la poursuite d'agression de ce pays contre le Yémen. Moscou ne peut plus tolérer l'invasion graduelle de l'Ukraine par l'OTAN, a souligné le porte-parole du Kremlin, Dimitri Peskov. C'était le principal titre de l'actualité. En voici le journal. Dans une interview accordée à la télévision chinoise CGTN, le ministre iranien des Affaires étrangères, Hossein Amir Abdollahian, a souligné que Téhéran ne cherche jamais à perdre du temps en ce qui concerne les pourparlers de Vienne ou à les pousser vers la déroute, et que si le troupe partie revient dans leurs obligations liées au pacte multilatéral et nucléaire, Téhéran, à son tour, retournerait pour respecter ses engagements respectifs. Hossein Amir Abdollahian a qualifié la position de Pékin dans les pourparlers de Vienne de constructive et de logique et a déclaré que l'Iran salue la Chine pour son soutien à la position de Téhéran dans le processus des pourparlers. Amir Abdollahian a déclaré au cours de ma visite en Chine, un consensus et des accords ont été conclus sur une série de questions importantes, y compris la mise en œuvre de l'accord stratégique et global sino-iranien. Amir Abdollahian a précisé au cours des négociations, nous avons présenté une proposition positive, constructive et réaliste à Vienne. La Chine et la Russie ont soutenu l'initiative, mais les pays occidentaux, y compris les États-Unis, n'ont fait aucun geste positif à cet effet, a-t-il souligné. L'Iran ne cherche absolument pas à perdre du temps ni à faire dévier les négociations, a conclu le chef de la diplomatie iranienne. Le porte-parole des forces armées yéménites, le général de Yahya Sari, a confirmé qu'en réponse à l'escalade de l'agression américano-saoudienne des Émiratis, nous avons mené une opération militaire qualitative et réussie. Sari a expliqué que l'opération visait les aéroports de Dubaï et d'Abu Dhabi, la raffinerie de pétrole de Moussafa à Abu Dhabi, un certain nombre de sites et d'installations émiraties importants et sensibles. L'opération réussie a été menée avec 5 missiles balistiques, un grand nombre de drones, a déclaré le porte-parole de l'armée yéménite, ajoutant que l'opération avait atteint son objectif avec succès. Saria poursuivit en disant « Les forces armées, tout en mettant en œuvre ce qu'elles avaient promis, ont renouvelé leurs avertissements au pays d'agression qu'ils recevraient des frappes plus douloureuses. » Cependant, le porte-parole a averti les entreprises étrangères, les citoyens et les résidents de l'État émirati ennemi de rester à l'écart des sites et installations vitaux afin de préserver leur sécurité. Nous n'hésitons pas à élargir nos objectifs pour inclure des sites et des installations plus importants dans la période à venir, a-t-il souligné encore. Moscou ne peut plus tolérer l'invasion graduelle de l'Ukraine par l'OTAN, a déclaré le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov, dans un entretien accordé à la chaîne télévisée américaine CNN. Nous assistons à une invasion graduelle du territoire de l'Ukraine par l'OTAN avec ses infrastructures et ses instructeurs et ses dépôts d'armes défensives comme offensives, a-t-il indiqué. Selon lui, ces évolutions ont poussé les relations russo-ukrainiennes vers la ligne rouge, ce qui constitue une menace pour la stabilité, la sécurité en Europe. Dans ce contexte, la Russie juge nécessaire de maintenir ses forces armées à la frontière ukrainienne par souci de précaution face à la tension croissante dans la région et l'ambiance inamicale créée, selon Peskov, par divers exercices menés par l'OTAN ainsi que par les vols de ses chasseurs et avions espions. Nous considérons l'OTAN comme une organisation mise en place à des fins de confrontation et pas de protection. L'OTAN n'est pas une colombe de la paix, de la stabilité et de la prospérité. C'est une arme de confrontation qui s'approche de plus en plus de nos frontières, a conclu le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov. La Corée du Nord lance de nouveaux missiles. La Corée du Nord a lancé lundi de nouveaux projectiles, probablement des missiles balistiques selon Séoul, son quatrième essai d'armement depuis le début de l'année. Les deux missiles balistiques de courte portée ont été lancés depuis un aéroport près de Pyongyang lundi et ont parcouru de 380 km à une altitude de 42 km selon le chef d'état-major interarmes de la Corée du Sud. Ces nouveaux essais surviennent à un moment délicat pour la région alors qu'une élection présidentielle est prévue en mars en Corée du Sud et que la Chine se prépare à accueillir les Jeux olympiques de le mois prochain. Et la fréquence et la variété des tests montrent que la Corée du Nord essaye d'améliorer sa technologie et ses capacités opérationnelles pour mener des actions secrètes afin que les autres pays aient du mal à détecter les signes préparatoires d'un lancement, a estimé le ministre japonais de la Défense lors d'un point de presse. Le remarquable développement par la Corée du Nord et de ses technologies en matière de missiles ne peut être ignoré pour la sécurité du Japon et de la région, a-t-il averti. La Tanzanie et le Burundi signent un accord pour la construction d'une voie ferrée de 282 km à des écartements standards. La Tanzanie et le Burundi ont signé un accord pour la construction conjointe d'une ligne ferroviaire à écartements standards de 282 km selon un communiqué publié par le gouvernement tanzanien. Le communiqué publié en fait par le ministère tanzanien des Finances et de la Planification indique que la ligne ferroviaire commencera à Uvanza dans la région occidentale de Kigoma en Tanzanie et se terminera à des Jitoga au Burundi. L'accord a été signé par le ministre des Finances et de la Planification et le ministre des Travaux Publics et des Transports du côté tanzanien ainsi que par le ministre des Infrastructures, de l'Équipement et du Logement Social, le ministre des Finances et du Budget et de la Planification économique du côté Burundi selon le même communiqué. S'exprimant après la signature de l'accord, ministre des Finances et de la Planification tanzanien a déclaré que les deux pays avaient commencé à rechercher des financements pour la mise en œuvre du projet, dont le coût est estimé à moins de 900 millions de dollars. Eh bien, chers amis, avec cette dernière nouvelle, notre journal d'information s'achève. Merci infiniment de l'avoir suivi. Restez avec nous, nous allons vous présenter dans une poignée de secondes notre commentaire politique. Iran-Chine, un pacte gagnant-gagnant, ce dont nous vous parlerons dans notre commentaire politique. Le secrétaire du Conseil suprême de la sécurité nationale iranien, l'amiral Ali Shamkhani, a qualifié l'accord de 25 ans avec la Chine de réalisation stratégique pour Téhéran, affirmant que l'accord est contraire à l'unilatéralisme américain. La mise en œuvre de l'accord de 25 ans entre l'Iran et la Chine, la deuxième économie mondiale, est une réalisation stratégique pour Téhéran, alors que Washington continue de poursuivre l'unilatéralisme et la pression continue pour exclure l'Iran de l'engagement économique avec le monde, a écrit l'amiral Shamkhani sur sa page Twitter. Le ministre iranien de l'économie, Sayed Ehsan Khandouzi, a annoncé pour sa part que les ministères iraniens et chinois avaient entamé des pourparlers détaillés sur la mise en œuvre de l'accord stratégique de 25 ans entre les deux pays. Les départements gouvernementaux de l'Iran et de la Chine ont entamé des pourparlers détaillés pour parvenir à des accords concrets d'investissement et de coopération après l'entrée en vigueur officiel d'un partenariat de 25 ans entre les deux pays la semaine dernière, a-t-il précisé. Maintenant, chaque ministère iranien peut entamer des pourparlers liés à son domaine d'activité avec la partie chinoise afin qu'il puisse conclure des contrats, a-t-il ajouté. Ce sera après le début de ces contrats que l'investissement et la croissance que nous envisageons auront effectivement lieu, a déclaré le ministre iranien de l'économie. Et le ministre iranien des Affaires étrangères, Hossein Amir Abdollahian, a annoncé vendredi que Téhéran et Pékin avaient entamé la mise en œuvre de l'accord stratégique de 25 ans signé en mars. Nous avons convenu d'annoncer aujourd'hui la date de début de la mise en œuvre de l'accord global de partenariat et stratégique entre l'Iran et la Chine, a déclaré Amir Abdollahian après avoir conclu des discussions détaillées sur la coopération sino-iranienne avec le ministre chinois des Affaires étrangères en Chine. Lors de la rencontre avec son homologue chinois vendredi, le chef de la diplomatie iranienne a souligné l'importance de l'accord de partenariat de 25 ans signé entre Téhéran et Pékin et a souligné que la mise en œuvre du document serait un événement important et un changement fondamental dans les relations. Il a soumis un message écrit important du président iranien Ebrahim Raisi à son homologue chinois Xi Jinping.
Bonjour à toutes et à tous et merci de choisir l'émission Le Débat diffusée depuis la capitale iranienne Téhéran. Je vous demande de bien vouloir rester avec nous. Aujourd'hui, il sera question de la rencontre du ministre israélien des Affaires étrangères avec le président français Emmanuel Macron. Une rencontre chaleureuse, trop même, car la France, encore une fois, a réitéré son engagement en faveur d'Israël. Et dans cette rencontre, ils ont parlé des relations entre Israël et l'Union européenne, mais surtout du dossier iranien à propos duquel Israël s'est toujours montré très exagéré et toujours une attitude inappropriée. Alors que les pourparlers reprennent à Vienne, nous allons développer donc cette question à l'aide des experts des questions internationales qui vont nous joindre tout à l'heure, juste après ce reportage. Restez avec nous, je vous prie.
Selon I24 News, le ministre israélien des Affaires étrangères, Yair Lapid, s'est longuement entretenu samedi soir avec le président français, Emmanuel Macron. La conversation a porté sur les défis régionaux, les pourparlers nucléaires et la demande d'Israël de faire pression sur l'Iran, ainsi que sur les relations de l'État hébreu avec l'Union européenne. Le chef de la diplomatie israélienne a félicité Emmanuel Macron pour le début de la présidence française de l'Union européenne et a souligné l'importance de renforcer les relations entre l'État hébreu et l'Union européenne. Le président français a réitéré son attachement à la sécurité d'Israël et a affirmé l'importance de conserver des relations bilatérales chaleureuses. Cet entretien intervient peu après la visite du ministre des Affaires étrangères, Yair Lapid, à Paris, il y a un mois et demi dans le cadre d'un tournée en Europe afin de discuter du dossier iranien. Selon le bureau du ministère israélien des Affaires étrangères, les deux parties avaient également discuté des relations bilatérales et que Macron avait réitéré son engagement en faveur de la sécurité d'Israël et a souligné l'importance qu'il accorde aux relations entre Israël et la France. Le dernier cycle de pourparlers sur l'Iran a repris la semaine dernière à Vienne, juste après la nouvelle année, après une pause de 3 semaines pour les vacances après la reprise des pourparlers en novembre.
Voilà, à présent, j'ai le grand plaisir de vous présenter nos deux chers invités, en commençant par Aïssar Midani, experte franco-syrienne depuis Paris. Madame Midani, bonjour.
Bonjour et bonjour à votre équipe et merci pour l'invitation.
Un plaisir de vous recevoir, Madame Midani. Un grand bonjour à Monsieur Luc Michel, géopoliticien depuis Bruxelles. Monsieur Luc Michel, bonjour.
Bonjour à toute l'équipe, à vos téléspectateurs et à Madame Midani que j'ai plaisir à retrouver.
Un débat qui s'annonce prometteur. Ma première question va s'adresser à Madame Midani. Alors pourquoi la France, encore une fois, a réitéré son engagement en faveur d'Israël et attache tant d'importance à la sécurité d'Israël et fait exactement ce que Israël lui dicte, Madame Midani.
Bonjour. Alors, bonjour à vous tous et à Monsieur Luc Michel aussi. Effectivement, la France a toujours montré qu'elle est, depuis Sarkozy d'ailleurs, son attachement à la sécurité d'Israël, l'attachement à sa présence et puis un grand soutien à la fois culturel, politique, économique, etc., à l'État fantoche d'Israël, d'une part. D'autre part, je ne cache pas, on le sait tous, hein, la participation de la France aussi dans l'agression et dans les agressions israéliennes, dans les agressions contre la Syrie depuis 2011 et depuis même avant, dans le cadre de la soi-disant coalition de lutte contre le soi-disant contre le terrorisme, mais qui en fait ne sont que le soutien au terrorisme. Donc la présence israélienne, la présence française, aussi bien dans le sud, dans le sud de la Syrie, avec les terroristes qui étaient dans le sud de la Syrie, et a toujours été appuyée par la France et par les propos politiques aussi des politiques français, aussi bien les ministres des Affaires étrangères. Je rappelle les propos de Laurent Fabius, je rappelle les propos de Le Drian, qu'ils veillent toujours à la sécurité d'Israël et à la présence de l'État d'Israël. Donc, je voudrais ajouter aussi au fait que l'État sioniste a aussi fait du lobbying au sein de la politique française, au sein de la classe politique française, et que la majorité, la totalité des candidats à la présidentielle vont faire bête au CRIF, hein. Le CRIF qui est là, un rassemblement des organisations juives sionistes, hein, et que cette présence en fait a beaucoup d'influence et agit sur la politique intérieure française, sur l'extérieure. D'un autre côté, on sait aussi à quel point l'État d'Israël fait des pieds et des mains pour empêcher qu'il y ait un retour à l'accord sur le nucléaire iranien. Pour cela aussi, il mobilise ses amis européens, notamment la France, représente un petit peu cette dette de bon pro-sioniste, hein, en fait, et contre l'accord, contre le retour à l'accord sur le nucléaire. En fait, la France nourrit aussi en même temps, alors très contradictoire, elle nourrit en même temps des velléités de travaux et de contrats avec l'Iran, mais d'un autre côté aussi, elle essaye au maximum d'empêcher le retour à l'accord iranien.
Si vous permettez, nous allons développer cette question du dossier nucléaire iranien tout à l'heure. Après avoir entendu les propos de Luc Michel, est-ce que, M. Luc Michel, vous trouvez normal que la France réitère à nouveau son engagement en faveur d'Israël et justement le fait que le ministre israélien des Affaires étrangères s'est rendu en France, c'est peut-être un signe que les relations entre l'Union européenne et Israël se sont affaiblies?
Écoutez, la France est l'État le plus aligné sur Israël. Ça fait 30 ans que la France a totalement abandonné ce qu'on appelait la grande politique arabe du général de Gaulle et s'est aligné sur les Israéliens. On disait dans les négociations de Genève en 2015 que le représentant d'Israël à la table de négociation, c'était le ministre des Affaires étrangères français, Fabius. Comment l'expliquer? Tout d'abord, il y a le poids, évidemment. Le poids du sionisme en France, il existe un lobby pro-israélien qui est modelé sur le laïpac aux États-Unis, c'est le CRIF, comme Madame Médani le soulignait. Il exerce une véritable terreur intellectuelle sur les hommes politiques français, que la moindre critique d'Israël étant taxée d'antisémitisme. Et deuxièmement, il y a beaucoup de Français qui vivent en Israël et qui votent en France. Ils élisent directement, ils participent aux élections à l'ambassade française, mais ils élisent également de très influents députés français de l'étranger qui sont des sionistes acharnés et qui défendent le point de vue sioniste à l'Assemblée nationale française. Voilà pourquoi les Français disent qu'ils veulent le retour aux accords de Genève, mais en réalité, ils font tout pour saboter la reprise de ceux-ci. Le deuxième alignement de la France, évidemment, il est sur la politique internationale américaine. C'est une deuxième suggestion après celle à Israël. Les Américains ne veulent absolument pas un retour. Et Israël surfe là-dessus en tentant de mobiliser un maximum de soutien pour une aventure militaire. Lorsque vous lisez, moi je la lis quotidiennement, la presse israélienne, vous constatez que pour eux, l'option militaire, elle est naturelle, elle doit se substituer à toute négociation, et on parle constamment, jour après jour, des projets militaires, des plans militaires, des manœuvres militaires, en ne posant pas d'allure, en ne mesurant pas d'allure toutes les conséquences. Et pour cette aventure militaire, il ne faut pas seulement qu'Israël ait le soutien des États-Unis, mais il faut qu'il ait le soutien des pays de l'OTAN qui sont dans l'Union européenne, d'où la carte française, évidemment, qui est là-dedans. Israël, d'ailleurs, est en cours d'intégration
ces structures militaires étant intégrées aux structures américaines du SATCOM qui commande au Proche-Orient et aux structures de l'OTAN également en Méditerranée.
Oui. Madame Idani, est-ce que c'est une obligation pour la France de faire exactement ce que Israël lui dicte ou c'est une obligation de la part des États-Unis qui font pression sur la France et certains pays d'Union européenne d'écouter Israël et, entre autres, par exemple, faire pression sur l'Iran dans le dossier nucléaire iranien?
Excusez-moi, vous voulez bien répéter la question?
Oui. Parce que est-ce que c'est une obligation?
Oui. Beaucoup de parasites.
D'accord. Est-ce que c'est une obligation donc pour la France d'écouter Israël ou c'est une pression de la part des États-Unis donc qui dicte à la France de faire exactement ce que lui dicte Israël par exemple, qu'on fait pression sur le dossier nucléaire iranien par exemple?
En fait, c'est plutôt Israël qui fait toujours pression sur la France et sur les États-Unis. Les États-Unis ont effectivement une politique et une stratégie politique de soutien systématique à l'État d'Israël. Mais la France aussi, elle a cette politique de soutien stratégique aussi à l'État d'Israël. Elle ne rate pas une occasion sans l'affirmer. D'ailleurs, je voudrais rappeler, l'histoire est riche d'exemples où la France et l'Angleterre, d'ailleurs, se sont associées à Israël pour bombarder le canal de Suez, pour bombarder l'Égypte, bombarder la Syrie, etc. D'ailleurs, même les bombardements récents depuis Biden aussi en Syrie ont été effectués de manière conjointe aussi entre les États-Unis et Israël. Mais aussi, la France n'est pas sans reste. Hein. Et elle est toujours en train de soutenir et puis d'aider à l'agression israélienne contre la Syrie, contre le Liban, contre les Palestiniens. Et c'est vraiment systématique. Donc en fait, la politique française des affaires étrangères, elle va tout à fait dans le sens du soutien. De cet État fantoche d'Israël, du soutien à l'agression aussi systématique de l'État d'Israël et contre la Syrie, contre l'Iran, contre l'Irak, rappelons-le aussi, et contre les Palestiniens, bien entendu. Donc en fait, c'est une stratégie affirmée et confirmée de l'État français qui est de soutenir cet État fantoche d'Israël et puis d'aider à sa subsistance et d'aider à sa présence. Monsieur Luc Michel, j'ai entendu vaguement qu'il a parlé aussi des manœuvres. Hein. Qui ont été effectuées, des manœuvres militaires qui ont été effectuées aussi bien donc avec l'Union européenne et puis l'État d'Israël avec aussi les Émirats arabes unis et Bahreïn. Donc là aussi c'est une coordination au niveau militaire qui se joue. Donc c'est au vu et au su du monde entier et au grand jour hein, que cette alliance se noue, elle est toujours existante en fait au niveau de la politique française et de la politique de l'occupant israélien. Oui. En fait, voilà.
Oui, justement, Luc Michel, revenons à la question du dossier nucléaire iranien. Les pourparlers reprennent, mais la première chose que le ministre israélien des Affaires étrangères a demandé à Emmanuel Macron était bien sûr de faire pression sur l'Iran. Pourquoi cette obligation envers cet engagement, justement? Oui.
Le nucléaire civil iranien, c'est un prétexte. Il ne faut pas se laisser croire à la propagande qui est développée dans les médias occidentaux. En réalité, l'OTAN et les États-Unis ont un double objectif qui est également celui d'Israël, c'est que l'Iran abandonne son programme balistique qui est constituant de sa politique de défense nationale et qu'il abandonne la politique internationale de l'axe de la résistance ce qui évidemment n'arrivera pas. Voilà quelle est la véritable raison. Lorsque Trump quitte les négociations de Genève et reprend la signature des États-Unis, ce qui sont des procédés inacceptables, en 2017, c'est son but, c'est la renégociation. Lorsque l'administration Biden et les Européens, à partir de 2021, commencent à parler de renégocier, ce qu'ils ont en tête, c'est d'ajouter, comme ils le disent eux-mêmes, des clauses supplémentaires, donc qui sont en renonciant de l'Iran à être la grande puissance régionale du Proche-Orient. C'est cela qu'il faut constater. Maintenant, il y a au milieu de tout ça un agenda purement israélien, c'est-à-dire que Israël prétend que l'Iran voudrait la bombe atomique. En réalité, c'est Israël qui, depuis les années 60, est la seule puissance nucléaire du Proche-Orient. Les Israéliens ont plus de 200 têtes nucléaires qui sont fixées sur des missiles de croisière américains installés sur des sous-marins de poste de la classe Dolphin allemand, donc l'OTAN et les États-Unis participant à la menace nucléaire israélienne. Ils croisent en Méditerranée, ils croisent en mer Rouge, certains disent même dans le Golfe Persique. Et évidemment, Israël ne veut pas qu'une autre puissance, selon elle, puisse accéder à la bombe atomique. Elle sait que c'est une hypothèque purement conjoncturelle, mais que si l'Iran y accédait, les Saoudiens et les Émiratis probablement suivraient, ils en ont les moyens financiers. Et donc, ce qui est l'espèce d'épée de Damoclès, les Israéliens, ils parlent de la stratégie de l'Armageddon. Eh bien, évidemment, qu'il y ait le monopole de l'arme nucléaire au Proche-Orient, cesserait d'exister. Voilà donc les doubles agendas, l'agenda américain et l'agenda de l'OTAN, bien entendu, qui visent à empêcher l'Iran de devenir une grande puissance régionale, et l'agenda israélien, lui, qui vise à empêcher une arme nucléaire en dehors d'Israël.
Et tout à fait. Madame Idani, alors que l'Iran ne cherche aucunement l'arme atomique, qu'Israël le veuille ou pas, l'Iran est à la recherche de l'énergie atomique. Alors, quelle menace pour Israël que l'Iran possède de l'énergie atomique pour les biens, donc pour la survie donc, des Iraniens?
Excusez-moi, vous voulez bien...
Oui. Alors, quelle crainte pour Israël pour de l'Iran d'avoir de l'énergie atomique alors que l'Iran ne cherche aucunement l'arme atomique? Donc, pourquoi l'Israël, qui possède déjà l'arme atomique, fait tant de pression à l'aide de ses alliés sur l'Iran qui ne cherche seulement de l'énergie atomique?
En effet, je crois d'abord, il est important de savoir que de toute façon, Israël a l'énergie atomique aussi, l'énergie nucléaire. Ils n'ont pas seulement l'énergie nucléaire, mais ils ont aussi des armes nucléaires. Des quantités importantes de missiles à tête nucléaire qui existent à l'état fantoche d'Israël, dans cette entité sioniste, hein, et il voudrait toujours rester la seule force au Moyen-Orient, dans l'ensemble de la région, qui dispose de l'arme atomique pour pouvoir garder cette suprématie, je dirais, et de la force. Ça, c'est d'un côté. De l'autre côté, pourquoi ils ne veulent pas que l'Iran accède à l'arme nucléaire, alors que l'Iran affirme sans arrêt que l'utilisation du nucléaire iranien sera une utilisation pacifique et pour la paix et pour des raisons humanitaires et pour des raisons de médicales et de développement? Parce que, effectivement, l'Iran accédera au statut de pays nucléaire et donc il pourra être un grand décideur dans la région, ce qui est désormais le cas, mais c'est une grande. Ça sera confirmé et reconnu mondialement que le statut de pays nucléaire qui sera conféré à l'Iran lui permettra de participer dans les grandes décisions de la région et du monde aussi. Et ça, c'est vraiment la crainte de l'État fantoche d'Israël, alors que Il veut continuer ses agressions contre le peuple palestinien, contre tous les peuples de la région, je voudrais dire, parce que ce n'est pas que le peuple palestinien. On voit ces agressions répétées contre le peuple yéménite, contre le peuple libanais, le peuple syrien, contre l'Irak. Donc Israël, elle participe dans tous les troubles et dans toutes les agressions qui ont lieu dans la région, et ce, à son propre profit, mais aussi au profit des États-Unis. Donc, en fait, il y a, un échange de rôles entre les États-Unis, l'État d'Israël et l'Union européenne, malheureusement aussi, qui a d'ailleurs continué à soutenir l'État fantoche d'Israël contre ses propres frais, à ses propres frais aussi. Et ça, ce sont des stratégies occidentales de l'OTAN qui sont permanentes et qui sont avouées à toute occasion. Donc, voilà, c'est clairement, voilà. Et je voudrais ajouter quand même que le corps deal du siècle a été toujours aussi pour conforter cet État fantoche dans ses choix et pour soutenir et pour le rendre permanent dans la région.
Absolument. Luc Michel, est-ce que vous partagez la colère de Mme Midani à l'égard des crimes commis par Israël dans la région?
Oui, tout à fait. Je dis souvent, d'ailleurs, que pour parler comme Ronald Reagan, il y a deux États voyous, c'est Israël et les États-Unis. Et pour parler comme George Bush, il y a un axe du mal, c'est l'axe américano-israélien. Il faut constater quelque chose, il y a une imposture, tous les discours sur le danger nucléaire iranien, alors que je le répète, le danger nucléaire est israélien. Les sous-marins nucléaires de poche, qui grâce à la complicité allemande croisent en Méditerranée, ils menacent tout autant les côtes de l'Europe d'ailleurs, ils menacent les côtes d'Afrique du Nord ou du Proche-Orient. Mais qu'est-ce qui fait peur surtout à Israël dans le nucléaire civil iranien? C'est que tous les États qui, après les cinq puissances nucléaires du Conseil de sécurité, ont ensuite accédé à la bombe atomique, c'est-à-dire les Indiens, les Pakistanais, la Corée du Nord, bien entendu, et les gens qui ont presque parvenu à cela, c'est-à-dire l'Irak au début des années 80 et la Libye de Muammar Kadhafi, ils sont tous parvenus au nucléaire militaire à partir du nucléaire civil, et les Israéliens ont fait la même chose. Lorsque vous maîtrisez le nucléaire civil, vous n'avez pas besoin de beaucoup d'énergie, de beaucoup de connaissances pour déboucher sur le nucléaire militaire. C'est cela qu'il faut retenir. Israël, donc, si vous voulez, c'est un peu la vieille parabole, puisque biblique, puisqu'on est en Israël, de la paille et de la poutre. C'est-à-dire qu'on critique la paille dans l'œil iranien et on ne veut pas montrer la poutre qu'on a dans l'œil israélien. Ajoutons que les Français sont complices de tout cela, puisque au début des années 60, avant que De Gaulle ne commence sa politique arabe, ce sont non pas les Américains, mais les Français qui ont doté Israël de l'arme nucléaire atomique. Et Israël n'étant allié aux États-Unis que postérieurement à la guerre de six jours. Donc la France a une vieille complicité, et maintenant depuis 30 ans, c'est une osmose. Tous les alliés étroits de la France, c'est-à-dire les Émirats, le Maroc ou l'Arabie saoudite, ce sont les proches alliés de la France dans tout le monde arabe et africain.
Luc Michel, géopoliticien depuis Bruxelles, merci beaucoup d'avoir apporté beaucoup de précisions à l'émission du débat d'aujourd'hui. Un grand merci à Aïssar Midani, experte franco-syrienne des questions internationales depuis Paris, d'avoir participé à l'émission du débat d'aujourd'hui. Merci pour votre fidélité. Au revoir à tous.
Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette émission consacrée à l'actualité de la région de l'Asie de l'Ouest. Le président iranien Ibrahim Raisi rencontrera son homologue russe à Moscou la semaine prochaine. Une source russe a annoncé que le président iranien Ibrahim Raisi se rendra la semaine prochaine en Russie pour rencontrer et s'entretenir avec son homologue russe Vladimir Poutine. La chaîne de télévision publique russe Russia 1 a annoncé que le président russe Vladimir Poutine accueillera son homologue iranien Ibrahim Raisi pour des pourparlers à Moscou la semaine prochaine, alors que la Russie tente d'aider les pourparlers de Vienne à progresser, à rapporter en fait la presse russe. Cette chaîne de télévision russe n'a pas révélé de quand précisément la rencontre entre les deux présidents aurait lieu, ni les questions dont ils discuteront. C'est une réunion importante et les contacts doivent se poursuivre au plus haut niveau, avait déclaré vendredi le ministre russe des Affaires étrangères Sergei Lavrov lors d'une conférence de presse sur les activités diplomatiques russes en 2021. Il a déclaré que l'importance de la réunion réside dans la nécessité de mettre en œuvre les notes sur toutes les questions et tous les ordres du jour, en particulier compte tenu du changement de gouvernement iranien. Lavrov a ajouté que les deux pays doivent analyser la garantie de la poursuite des échanges économiques et des relations dans d'autres domaines. La Chine a réaffirmé son opposition aux sanctions unilatérales des États-Unis visant l'Iran, selon le compte rendu fait par Pékin d'une réunion avec le chef de la diplomatie des Chinoises et son homologue iranien, Amir Abdullahian, tout en soutenant les efforts destinés à raviver l'accord de 2015 sur le programme nucléaire iranien. Dans un compte rendu publié sur son site internet, le ministère chinois des Affaires étrangères a indiqué que Wang y avait déclaré à Hossein Amir Abdullahian que les États-Unis étaient les premiers responsables des difficultés actuelles avec l'Iran pour s'être retiré de manière unilatérale de l'accord de 2015 conclu par les puissances mondiales avec Téhéran. Au cours de la réunion organisée dans la province chinoise de Jiangsu, le chef de la diplomatie chinoise a déclaré aussi que Pékin apporterait son plein soutien à une reprise des pourparlers sur le nucléaire. L'ancien président américain Donald Trump avait retiré en 2018 les États-Unis du plan global d'action conjoint rétablissant les sanctions américaines contre l'Iran. Depuis lors, Téhéran s'affranchit par étapes des termes de l'accord. La Chine, signataire de l'accord de 2015, s'oppose aux sanctions unilatérales illégales contre l'Iran, à la manipulation politique via des sujets comme les droits de l'homme et à toute ingérence dans les affaires intérieures de l'Iran et d'autres pays de la région, a déclaré le ministre chinois des Affaires étrangères. Le Liban dément les allégations israéliennes. L'accord stipule que le gaz sera égyptien. Le ministère libanais de l'énergie a démenti un reportage d'une chaîne de télévision israélienne affirmant que les États-Unis avaient conclu un accord pour fournir du gaz israélien au Liban, le qualifiant de totalement et complètement faux. Dans un communiqué, le ministère a confirmé que l'accord d'approvisionnement en gaz entre le gouvernement libanais et le gouvernement frère égyptien stipule clairement et explicitement que le gaz doit provenir d'Égypte, qui en possède de grandes quantités et en consomme plus de 100 fois de ce qu'il assurera au Liban. Le communiqué ajoute, par conséquent, il fournira au Liban une petite partie de sa production et selon la taille de son marché, et ce gaz passera par la Jordanie, puis vers la Syrie. Et parallèlement, une quantité de gaz sera fournie conformément à l'accord de transit et d'échange à partir des champs gaziers à Homs. Cette quantité atteindra la station d'Er Ammar dans le nord afin de fournir de l'électricité supplémentaire aux citoyens libanais. Le ministère de l'Énergie a souligné que ce qui circule sur le fait que le gaz sera du gaz israélien est totalement faux. Le ministère avait précédemment prévu d'achever les réparations d'une ligne de transport de gaz fin février, ce qui permettrait au gaz égyptien d'atteindre le Liban. Le ministre syrien du pétrole et des ressources minérales Bassam Dhoumi a également annoncé en septembre dernier que le gazoduc arabe est prêt à l'intérieur de la Syrie pour transporter du gaz égyptien vers le Liban, notant que la Syrie obtiendra des quantités de gaz en échange de son passage sur son territoire, conformément aux accords signés entre les deux parties. Il y a deux jours, l'ambassadrice américaine au Liban a transmis un message du Trésor américain au Premier ministre libanais, Najib Mikati, déclarant qu'il n'y avait aucune inquiétude concernant la loi américaine sur les sanctions concernant le gaz égyptien passant par la Syrie vers le Liban. Il a été rapporté qu'il n'y a pas d'approbation officielle des États-Unis pour fournir du gaz égyptien au Liban via la Syrie, car cela viole les sanctions américaines contre Damas, appelées loi de César. Entretien syro-irakien pour consolider la coopération dans le domaine des transports et de la sécurisation des frontières. Le conseiller de la sécurité nationale irakienne, Qasem al-Araji, s'est entretenu avec l'ambassadeur de Syrie à Bagdad, Sattam Jaddan al-Janda, des moyens de promouvoir la coopération bilatérale dans le domaine de la sécurité et de la sécurisation des frontières. Dans un communiqué dont une copie a été reçue par la correspondante de Sanaa à Bagdad, le conseil de la sécurité irakienne a indiqué que Karaji et Al-Dandada avaient examiné les derniers développements de la situation et de la coopération bilatérale dans la sécurisation des frontières entre les deux pays et le dossier du champ d'Al-Hol pour les réfugiés. L'occupation turque est la plus grande menace pour le nord de la Syrie, a déclaré le ministre syrien des Affaires étrangères, Faisal Miqdad. Le ministre syrien des Affaires étrangères, Faisal Miqdad, a affirmé que l'occupation turque et sa présence au nord de la Syrie constituent la menace la plus grande pour le nord de Syrie. Faisal Miqdad a souligné le rôle honorable de l'information auprès des Syriens pendant les années de la guerre des terroristes contre la Syrie, qui a résisté, offert des martyrs et rempli pleinement son message. En ce qui concerne les réunions de la commission chargée de discuter de la Constitution, Miqdad a indiqué que tout ce qui est lié à la situation en Syrie et à la discussion de la Constitution est une affaire purement syrienne et que son succès dépend de la non-ingérence extérieure dans son travail. Il a précisé que l'Occident n'a pas l'intention sincère pour le succès de la dite commission. Le ministre syrien des Affaires étrangères a également indiqué que les pratiques criminelles de l'agression américaine dans la ville de Raqqa sont un témoin vivant leur brutalité, précisant que les États-Unis avaient tant exploité et violé les droits de l'homme dans l'intérêt de leurs pratiques coloniales. C'est la fin de cette émission. Merci infiniment de l'avoir suivi. Merci beaucoup pour votre fidélité à la radio francophone iranienne.
Thank you.